Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans cet espace dédié à l'information économique sur Radio de la Paix. Nous faisons un focus aujourd'hui sur la situation qui prévaut au sein de l'Union économique ouest-africaine, l'UEMOA, à savoir le blocage au niveau de la présidence tournante du Conseil des ministres. Le Burkina Faso, qui attend son tour pour présider cet organe de l'Union, devra patienter puisque certains membres de cette organisation s'opposent que le ministre des Finances de ce pays, de l'AUS, occupe ce poste. Une situation qui a amené les pays membres de cette alliance à quitter la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres qui s'est tenue récemment au Togo. Nous analyserons cette actualité dans ce numéro d'économie avec l'enseignant en économie, Yao Prof Séraphin, qui se prononcera sur le sujet dans la rubrique Regard sur la gestion économique. Et bien avant, zoom sur cette organisation dans le lexique économique. Et puis vous aurez itinéraire avec Elisabeth Domoro, l'une des rares femmes productrices de cacao dans la région du Gord. Bienvenue à tous et merci de suivre Radio de la Paix pour vous informer.
Le lexique économique.
L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
L'UEMOA est une organisation régionale qui comprend 8 États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'un des organes essentiels de l'UEMOA est le Conseil des ministres, qui est chargé de la mise en œuvre des orientations générales définies par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est donc l'instance qui réunit les chefs d'État de ces 8 pays. Et il faut savoir que le Conseil des ministres approuve le budget de l'Union. Pour assurer donc une rotation équitable entre les États membres, la présidence du Conseil des ministres est assurée à tour de rôle à chaque 2 ans par chaque pays.
Regard sur la gestion économique nationale.
Professeur Yao Prof Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
Pour parler donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui englobe 8 pays, lors de la dernière réunion au Togo, il y a eu une incompréhension. Le Burkina devait, en principe, le ministre burkinabé de l'économie et des finances devait remplacer son homologue ivoirien, mais il n'y a pas eu d'accord. Déjà, comment vous réagissez à cette situation qu'on peut qualifier de blocage, contrairement à ce que les textes disent?
Bon, je pense que c'est une mauvaise situation pour notre union, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, parce que je pense que toute organisation est réglée. En ce qui concerne le Conseil des ministres de l'UEMOA, je pense que l'article 11 du traité de l'UEMOA est clair. L'article 11 dit ceci, que la présidence, n'est-ce pas, du Conseil des ministres de l'UEMOA est une présidence tournante. Et depuis décembre 2022, la Côte d'Ivoire préside effectivement ce Conseil des ministres. Donc nous sommes à la fin, logiquement, comme vous le dites, selon cet accord qui fait tourner la présidence, il reviendrait normalement au Burkina Faso, la présidence. Mais, comme vous le savez, depuis un certain moment, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, donc les pays de l'AES, ont décidé de sortir effectivement de la CEDEAO. Je pense que c'est une façon pour les autres pays de manifester leur mécontentement vis-à-vis de ces pays-là. Et je pense que c'est une mauvaise chose de refuser la présidence, n'est-ce pas, du Conseil des ministres, qui, rappelons-le, est juste l'organe en dessous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas une bonne chose parce que, vous savez, la tête fêtière, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et cette conférence-là donne le ton, donne ce qu'il y a à faire et il revient au Conseil des ministres, n'est-ce pas, de faire tourner en fait l'Union. En fait, les orientations générales sont définies par la conférence des chefs d'État et de gouvernement et il revient, n'est-ce pas, maintenant au Conseil des ministres de respecter ce que la conférence des chefs d'État a arrêté et aussi de voter le budget. Donc visiblement, là je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'UEMOA.
Mais est-ce que la situation, dans ces pays de l'AUS, notamment au Burkina Faso, ne pourrait pas expliquer un peu l'attitude des autres pays, la situation d'exception que vivent ces pays de l'AUS, l'Alliance des États du Sahel, puisqu'on sait que ces régimes-là sont des régimes d'exception. Il y a eu des coups d'État. Est-ce que tout cela n'est pas de nature à amener les autres à être méfiants?
Non, je ne pense pas. Il y a une attitude à géométrie variable, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'à la tête du Burkina, du Niger et du Mali se trouvent des militaires qu'on va les repousser. Non, je suis désolé. Au temps présent, je pense qu'au Burkina Faso, au Niger et au Mali, circule la monnaie qu'on appelle le franc CFA. Je ne pense pas que ces trois pays, aujourd'hui où je vous parle, aient leur monnaie. Non, c'est toujours notre même monnaie qui circule. Donc, à partir de là, je ne comprends pas pourquoi on peut refuser la présidente du Conseil des ministres de l'UEMOA au Burkina Faso. Je trouve que c'est une faute grave. Il revient au pays de l'UEMOA de rétablir effectivement cette injustice parce que ce n'est pas une bonne chose.
Pour les arguments que nous avons entendus, ces pays aussi, en termes donc de balance commerciale, ne déclareraient pas certaines ressources parce que nous savons aussi que ces ressources-là sont des éléments qui soutiennent la monnaie. On veut parler de l'or et bien d'autres ressources qui passeraient par la petite porte. Tout cela ne pourrait-il pas expliquer cette position affichée notamment par la Côte d'Ivoire, le Sénégal?
Mais bien avant effectivement la prise de pouvoir de ces militaires, vous savez bien, l'or, les richesses minières, pétrolières du Mali échappaient au Mali. Alors c'était au-dessus de tout le monde. Et je n'ai pas vu les autres pays africains venir dire que non, il y a une partie de l'or malien qui échappe aux Maliens. Non, écoutez, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en guerre contre les terroristes. Donc il y a une gestion efficiente et efficace de leurs ressources. Maintenant, si d'aventure les autres pays de l'UEMOA pensaient que ces trois pays de l'AES ne jouent pas franc jeu et casseraient une partie de leur richesse. Mais il y a bien des instances habilitées pour pouvoir aller vers ces trois pays-là et dire que, bon, voilà, nous allons commander une mission pour vérifier effectivement si une partie quand même des richesses du pays n'était pas déclarée. Non, je ne pense pas que ça soit ça. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de race. Donc je pense que là, visiblement, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas une bonne chose parce que M. Jacques Lokomé, il peut avoir des conséquences politiques. Parce qu'aujourd'hui, la première réaction des pays de l'AES était de dire quoi? Qu'il y a une atteinte à leur souveraineté. Voyez-vous? Et il y a une atteinte aussi à la cohésion de l'Union. L'Union monétaire n'a pas besoin, effectivement, de ces couacs inutiles, à mon humble avis. Ça coûte quoi aux autres pays d'accepter qu'un Burkinabé soit à la tête du Conseil des ministres? Ça coûte quoi? Que fait la Côte d'Ivoire? Que fait le Sénégal? Que fait les autres pays? Un ministre Burkinabé à la tête du Conseil des ministres, lequel Conseil d'ailleurs se réunit chaque trois mois d'ailleurs, et par, chaque trois mois de façon ordinaire, pour réfléchir sur quoi? Sur les orientations données par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour voter un budget, ça a quoi à voir avec les ressources qui échappent au pays? Non, je pense que la raison est ailleurs. Ce n'est pas une bonne chose. Cela jette un doute sérieux, un nuage épais sur la légitimité des organes et des instances aujourd'hui de l'UEMOA. Parce que c'est le Conseil des ministres de l'UEMOA qui vote le budget. Maintenant, celui qui a même de présider ce Conseil, vous l'écartez. Est-ce que le budget que vous allez voter, c'est un budget légitime? Non. Donc, on n'a pas besoin de venir créer. Nous souffrons déjà.
Alors, mais pour l'instant, l'intérim est assuré par le ministre ivoirien, le ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire. Mais en termes de conséquences, on a entendu dire au début donc de ces coups d'État dans ces trois pays, que ces trois pays envisageraient de battre monnaie. Est-ce qu'avec cette situation, on peut craindre que ces pays partent aussi de l'UEMOA après la CEDEAO?
Pas tout de suite, parce que le président Tiani l'a dit, effectivement, que c'est une option sérieuse, scrutée, n'est-ce pas, par ces trois présidents. Et encore, le président Ibrahim Traoré, Ibé, l'a dit aussi lors d'une interview accordée à un de vos confrères que ces trois pays ont emprunté un chemin de non-retour. Et donc, de telles déclarations laissent transparaître la volonté manifeste de ces trois pays d'aller vers une souveraineté monétaire tout court. Mais, je ne pense pas que cette décision de refouler un ministre là où nous parlons là va les pousser maintenant là. Non, mais c'est une idée qui est dans la tête, n'est-ce pas, de ce président. Moi, je pensais plutôt vers 2027, mais je pense qu'un tel comportement peut précipiter effectivement les choses. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, nous sommes des Africains. En Afrique, tout peut se résoudre sous la palabre. Et donc, je pense que Ofoboyi nous disait que nous allons commencer la guerre, mais nous allons terminer la guerre par la paix. C'est donc ça. Mieux vaut commencer par la paix pour éviter la guerre.
Justement, quelles pourraient être les conséquences au-delà même de ces trois pays sur l'UEMOA en termes donc de performance de cet espace?
Bon, vous-même, vous venez de le dire. Vous venez de dire qu'il y a une partie des richesses, n'est-ce pas, des trois pays qui échapperaient effectivement à la comptabilité de l'Union. Donc vous voyez, quand vous agissez ainsi et que ces trois pays trouvent que, apparemment, nous sommes personnes non grata au sein de l'UEMOA. Mais je vous dis bien entendu, les experts de l'AES vont accélérer leur volonté de sortir définitivement de la zone. Parce que si aujourd'hui on refuse un ministre burkinabé de prendre la tête du Conseil des ministres de l'UEMOA, quand sera-t-il demain? Avec ce comportement-là, si rien n'est fait, je pense que cela peut désagréger très rapidement l'UEMOA. Et si l'UEMOA est désagrégé déjà par le terrorisme, si on doit bien désagréger l'UEMOA par effectivement des représailles, ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, avec de tels comportements, vous savez que que l'UEMOA, c'est une zone intégrée monétairement, libre circulation des personnes, des biens, libre circulation des capitaux. Mais un pays peut décider, en termes de représailles, de maintenir, par exemple, des taux, par exemple, sur les transferts de fonds. Par exemple, ce serait légitime. Donc, de telles représailles au niveau du commerce, au niveau financier, pourraient vraiment entraver la dynamique que nous enregistrons aujourd'hui au niveau de l'UEMOA. C'est pourquoi, moi, je plaide aux pairs des pays frères, les autres pays, de mettre bas la terre, parce que, vous savez, aujourd'hui, en économie, la stabilité est une variable très, très, très importante pour nous. Et donc, nous n'avons pas besoin, nous, pays de l'UEMOA, surtout pour la pérennité et la stabilité monétaire, nous n'avons pas besoin, effectivement, de turbulences économiques. Lesquelles turbulences économiques peuvent provenir s'il y a des turbulences politiques?
Pour parler des organes, quel est le réel poids, en tout cas, de la présidence du Conseil des ministres donc, des pays membres de l'UEMOA en termes donc, stratégiques hein?
Le Conseil des ministres est un organe très important. La tête fêtière, déjà, je vous ai dit, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, voilà. Et juste en dessous, vous avez le Conseil des ministres. En fait, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ce sont les présidents et les chefs de gouvernement qui se réunissent et qui donnent les orientations générales. C'est-à-dire pour cette année, qu'est-ce que l'UEMOA veut? Les grandes décisions, n'est-ce pas, se prennent au niveau des présidents et des gouvernements. Maintenant, il revient au Conseil des ministres d'appliquer effectivement les orientations générales et de voter le budget. Mais si le budget n'est pas voté, puisqu'il revient de droit au Burkina Faso aujourd'hui, selon l'article 11 du traité de l'UEMOA, de présider effectivement ce conseil. Donc, il peut y avoir un blocage au niveau du budget, par exemple. Vous-même, vous l'avez dit, qu'actuellement, le poste est assuré de façon intérimaire par le représentant ivoirien. Mais en violation de l'article 11 du traité de l'UEMOA, il n'est pas la personne indiquée pour présider effectivement ce vote-là. Donc, ce vote-là, ce budget serait caduque, nul et de nul effet juridiquement. Et donc, vous voyez que cela peut bloquer notre union.
Mais est-ce que c'est des règles écrites, ces passations de 2 ans?
Mais ce sont des règles écrites, monsieur. Quand on vous dit que selon l'article 11 du traité, que la présidence est tournante, et qu'on vous dit que depuis décembre 2022, la Côte d'Ivoire préside et que le mandat de la Côte d'Ivoire est terminé, et qu'on vous dit qu'il revient à qui? Au Burkina Faso. Mais c'est réglementaire.
Mais est-ce que le poids de la Côte d'Ivoire, hein, 40% pratiquement de l'économie de l'UEMOA avec le Sénégal, ne pourrait pas expliquer aussi sa position en termes de crainte sur l'aventure que constituerait?
Non, ne pensez pas à la chose comme ça. Quand nous sommes dans une union monétaire, je sais bien, je suis très conscient que la Côte d'Ivoire pèse 40% du PIB de l'Union, la Côte d'Ivoire pèse aussi 40% de la masse monétaire de l'Union, ça je le sais. Après c'est le Sénégal. Mais vous savez, quand vous êtes dans une union monétaire, c'est une communauté de destin. C'est une communauté de destin. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons venir revoir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, monsieur le journaliste, je voudrais rappeler aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous écoutent que quand il s'était agi de déplacer le siège de la BCAO de Paris en Afrique, c'est alors qu'a été convoqué au Faubagné et monsieur Senghor. Et on a dit, bon, vous voulez l'africanisation, n'est-ce pas, de la BCAO, dont le transfert depuis Paris vers l'Afrique, où est-ce que vous voulez qu'on construise le siège? Monsieur Senghor s'est empressé de dire qu'il voulait que le siège soit construit à Dakar. Vous avez dit que je ne trouve pas de convénients. Le deuxième jour des discussions, on devait réfléchir maintenant sur qui va être le gouverneur de la BCAO. Senghor a encore levé le doigt, il dit, je veux que ce soit un Sénégalais. Au Faubagné a dit, mais tiens, Senghor, tu vas pas avoir quand même le siège et le gouverneur. Et c'est comme ça, je vous dis, monsieur, que le gouvernorat est revenu à la Côte d'Ivoire. Donc, si longtemps que le siège va se trouver à Dakar, le gouvernorat va toujours revenir à la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que les petits pays, ceux que vous appelez petits pays, à part le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on a fait des arrangements avec ces articles 11 et autres pour leur donner la vice-présidence, le conseil des ministres qui doit être tournant, etc., etc. Donc, vous voyez, on ne va pas revenir aujourd'hui remettre en cause, effectivement, cette disposition que nous avons trouvée politiquement, pour pouvoir être ensemble. Être ensemble, c'est aussi, effectivement, faire des concessions. C'est donc, ça. On ne va pas toujours mettre au devant le poids de la Côte d'Ivoire, le poids du Sénégal. On savait bien que nous étions premiers, Sénégal et nous, et puis nous avons accepté que les autres pays aient des postes. Aujourd'hui, M. Jacques Lecomé, la Côte d'Ivoire est une première économie. Est-ce que vous savez si demain le Burkina serait la première économie? Est-ce que vous savez? À l'époque, qui aurait cru que la Guinée équatoriale allait être aujourd'hui en position de force au niveau de la CEMAC? On ne savait pas. Les Guinéens équatoriens étaient considérés comme les pauvres, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, méfions-nous de dire toujours que la Côte d'Ivoire est une économie première. Après, nous, c'est le Sénégal. Et que nous devons damner les autres. Nous devons marcher sur eux. Je suis entièrement opposé à de telles aventures isolées.
Professeur Prao Yao Séraphin, merci infiniment pour ces éclairages sur ces différents points économiques.
C'est nous qui vous remercions, M. Jean-Claude Bobé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Dans la rubrique itinéraire, Abbé César Cassin nous permet de faire connaissance avec Elisabeth Domoro, l'une des rares femmes planteurs de cacao dans la région du Gond, notamment à Gagnois. Elle nous parle de ses débuts, de ses joies et peines en tant que productrice de cacao. Suivons.
J'ai aimé l'agriculture depuis mon jeune âge. Donc, j'avais demandé à mon père de me donner une portion de forêt pour que je puisse l'exploiter. Ce qu'il avait accepté en son temps. Mais avant qu'il me donne la forêt, partout les gens rencontraient qu'une femme n'a pas le droit d'être planteur dans son village. Mais mon père, en tant que croyant, a fait fi de tout leur dire et il m'a octroyé des hectares de forêt. Plus de 7 hectares, hein, j'avais même amené un géomètre là-bas. Ils ont mesuré, mais ça dépassait. Et donc, j'ai exploité 5 hectares et j'ai laissé les autres en attendant. Les 5 hectares étant en production, quelqu'un est venu notamment brûler la plantation. Alors qu'on cueillait déjà le cacao, je vendais la banane. J'avais même fait un hectare de manioc que je vendais, quand bien même que parallèlement à ça, je fonctionnais. Mais je faisais tout ça là. Je suis agent de santé. Le matin, avant 7 heures, je partais vendre le manioc que les femmes achetaient. Elles m'attendaient à 6 heures même. Donc quand je finis de vendre, je me lave et puis je vais au travail. J'aimais vraiment cultiver la terre. Et quand ils ont brûlé cette plantation, j'ai abandonné et le champ de manioc, banane et puis la plantation de cacao. J'ai dit je ne veux plus cultiver la terre. Parce que mon mari m'avait prévenu en son temps qu'au village on brûle les plantations, que lui n'était pas partant. Donc je suis revenu au village.
C'était en quelle année?
Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, je ne voulais plus rien faire.
Quand papa vous a donné la forêt, quel âge aviez-vous?
J'étais déjà en fonction, agent de santé. Et donc, on dirait que c'était dans les années 90 là-bas, 95, quelque chose comme ça. Donc, quand ils ont brûlé la plantation en production, découragé, donc, je suis venu m'asseoir. Et j'ai continué à aller à mon service. Avec à mes occupations de ménage des femmes. Et puis, peu avant la mort de mon père, il a exigé que je vienne pour qu'il me parle de son héritage. Donc, j'ai pris un journaliste pour aller au village et puis un caméraman pour qu'on filme tout ça là. Parce que je suis femme. On va laisser cette partie, mais on va plutôt aller sur le côté plantation. Il n'était plus apte à aller au champ. Donc, les parcelles étaient déjà prises. Occupé par certaines personnes sans la permission de mon père. Donc, ceux qui étaient là témoignaient à chaque fois que les parcelles sont déjà prises. Et donc, il est arrivé sur une parcelle où je pouvais avoir près de 10 hectares avec ma grande sœur. Donc, on a divisé, j'ai eu 5 hectares, ma grande sœur a eu 4 et quelques. Et puis, on a exploité. J'ai fait 2 hectares de cacao et puis 3 hectares de via sur les 5. Mais quand on a fait le cadastre, ça a donné près de 9 hectares.
Est-ce que votre exemple a encouragé d'autres femmes à faire l'agriculture, à planter du cacao, de l'EVA?
Non. Et au début, avant qu'on brûle ma première plantation, ça a encouragé toutes les filles de venir. Mais quand ils ont brûlé ma plantation, personne ne voulait venir. Même quand je suis revenu, ma grande sœur et moi, personne n'est venu. Et en ce moment, il n'y avait plus de parcelles aussi. Mais jusqu'à présent, personne ne veut créer des plantations.
Donc, dans votre village, vous êtes la seule à avoir des plantations?
Avec ma grande sœur, nous sommes les deux filles à avoir des plantations pour nous-mêmes. Ce n'est pas héritage de quelqu'un, c'est nous-mêmes, on a planté.
Madame, à tout ce que vous venez de dire, reste un point que vous estimez important, que vous voulez ajouter comme conclusion.
Je vais dire aux femmes que être femme n'est pas une fatalité. Elle réussit. Et puis, quand une femme a réussi aussi, quand une femme a réussi, c'est toute une famille qui a réussi.
Être femme n'est pas une fatalité et quand une femme a réussi, c'est toute une famille qui a réussi. Ce sont là quelques mots forts de l'invité d'itinéraire aujourd'hui. Il s'agit d'Elisabeth Domoro, ancienne agent de santé, l'une des rares femmes productrices de cacao dans la région du Gord. Et c'est cet entretien avec Abel César Cassin qui met fin à ce numéro d'Economia sur Radio de la Paix. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de l'actualité économique sur votre radio.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.